Alors, chers amis, chers camarades, je vous souhaite la bienvenue à la fête de lutte ouvrière. Cette fête est un précieux moment de détente et de fraternité, mais aussi une occasion de mener des discussions vitales sur la situation politique et l'évolution de la société. Alors, après des semaines de tractations, Barnier et Macron ont fini par composer un gouvernement. Avec deux clones de Macron au ministère de l'économie, de nombreux macronistes recyclés, et l'arrivée de politiciens LR dans le genre bien réactionnaire. La couleur allait annoncer. Le temps qu'il tiendra, ce gouvernement sera pro-patronal et anti-ouvrier. Barnier a été choisi parce que le RN s'est engagé à ne pas le faire tomber tout de suite. C'est dire qu'il sera sous son contrôle. Plus Barnier tapera sur les classes populaires, plus il coupera dans les budgets utiles à la population et plus il désignera les étrangers comme responsables de tous les problèmes. La nomination d'un Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur est un symbole. Catholique intégriste, homophobe et anti-avortement, Retailleau promet déjà une nouvelle loi immigration à peine 9 mois après la précédente. Cette alliance Macron-Le Pen montre l'immense arnaque qu'a représenté le Front Républicain. Ce Front Républicain censé faire barrage au RN. Il faut un sacré aveuglement pour affirmer comme les dirigeants de la gauche on a battu l'extrême droite. Ou comme ceux de la CGT dans leur appel à la journée de grève de mardi prochain, nous avons évité le pire, gagnons le meilleur. Il faut être sur une autre planète pour penser qu'on peut éviter le pire avec un bulletin de vote. Surtout en appelant à voter pour des politiciens qui nous portent des coups depuis 7 ans. Bardella n'est certes pas à Matignon, mais l'extrême droite a multiplié ses voix par 2,5 en 2 ans. Ces idées ne pèsent pas seulement sur le gouvernement Barnier, elles pèsent sur toute la société. Le moindre fait divers, la moindre agression sont imputés par les politiciens, les chaînes d'information ou les réseaux sociaux au laxisme supposé de la justice, au manque d'ordre dans le pays ou au méfait de l'immigration. Cette démagogie xénophobe permanente qui se mène dans tous les pays d'Europe ne peut que renforcer les partisans de la manière forte au sein de la police ou de l'armée, ou parmi les groupes identitaires qui se préparent à agir physiquement contre des migrants, des centres d'accueil ou des mosquées. La tentative des groupuscules identitaires de faire une descente dans le quartier de la Monnaie à Romans en novembre dernier, après le meurtre de Thomas à Crépol, montre que certains s'y préparent. La vague de violence xénophobe cet été en Grande-Bretagne montre que les discours haineux peuvent basculer du jour au lendemain en actes violents. Ils peuvent engendrer une situation de guerre civile au sein même de notre classe, sur nos lieux de travail ou de vie. C'est un danger mortel à un moment où les travailleurs ont le plus besoin de leur unité pour faire face à toutes les attaques portées par les patrons et par le gouvernement. Alors il faut combattre cette division. Il faut défendre pied à pied cette idée que la société n'est pas divisée en 3 blocs électoraux, mais en 2 classes sociales. Il n'y a pas les Français d'un côté et les étrangers de l'autre. Il y a les travailleurs et leurs exploiteurs. Il y a ceux qui produisent toutes les richesses et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et il y a ceux qui transforment la sueur et la fatigue des salariés en dividendes et en profits. Il faut s'adresser à ceux des travailleurs qui ont voté RN. Ils l'ont fait des fois parce qu'ils ne supportent plus cette gauche qui les a trahis tant de fois. Beaucoup reprennent ce mensonge selon lequel on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ou il n'y a pas assez de logements ou d'emplois pour tout le monde. Il faut les convaincre que réserver la priorité des embauches aux Français, comme le réclame le RN, n'empêchera pas des groupes aussi richissimes que Valeo, Vancorex ou Colgate Palmolive de fermer des usines. Il faut les convaincre que couper le RSA ou les allocations chômage aux plus précaires n'augmentera pas d'un centime leur propre salaire ou leur future retraite. Avoir à ses côtés des ouvriers plus exploités que soi n'a jamais fait avancer les intérêts des travailleurs. C'est même l'inverse. Moins les travailleurs étrangers auront de droits, plus nous reculerons tous parce que ce sera un nouveau moyen de pression pour le patronat. Bardella et Le Pen au pouvoir seront des serpillères du grand patronat, comme tous leurs prédécesseurs. D'ailleurs, ils se débarrassent déjà à grande vitesse de tout ce qui déplaît au patronat. Le RN vient de publier une synthèse de ses propositions économiques. Disparues les baisses de TVA ou les taxes sur les bénéfices excessifs qui figuraient dans leur programme. Il n'y a pas de frontière étanche entre l'extrême droite, la droite, le centre, la gauche. Il y a une continuité. Soit ils ont gouverné ensemble, soit ils se sont succédé au pouvoir, les uns terminant la réforme, les réformes entamées par les autres. Et on l'a vu depuis la dissolution. Derrière les ministres qui servent de figurants se cachent des hauts fonctionnaires, véritables dirigeants de l'appareil d'État au quotidien. Ainsi, Jérôme Fournel, directeur de cabinet de Barnier à Matignon, était le chef de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy. C'est lui qui a préparé le budget 2025 avec 15 milliards d'économies. Barnier, lui, n'aura qu'à valider. Ces hauts fonctionnaires sont liés humainement et socialement aux milieux industriels et financiers. Ils sont parfois de gauche, souvent à droite. Certains en rejoignant même le RN maintenant qu'ils s'approchent du pouvoir. Ils changent de ministère au gré des remaniements. Ils alternent les postes dans un ministère ou dans un grand groupe privé. Mais quel que soit leur poste, ils ont toujours la même boussole, servir les intérêts de la bourgeoisie. Or, cette bourgeoisie n'a qu'une seule exigence. Le maintien des baisses d'impôts et des subventions pour elle-même, l'austérité et l'aggravation de l'exploitation pour les classes populaires. Voilà la feuille de route de tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient à Paris, à Londres ou à Berlin. Regardez comment Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique de gauche, qui a la majorité absolue, promet du sang et des larmes aux classes populaires sous prétexte que les conservateurs ont vidé les caisses de l'État. Dans tous les pays, le boulot des politiciens est de mettre les caisses de l'État à la disposition de la bourgeoisie et ensuite de présenter la facture aux travailleurs. Ils nous rabâchent qu'avec 3 000 milliards d'euros, la dette en France est intenable. Mais qui a augmenté cette dette de 1 000 milliards depuis 2017? Et à quoi ces milliards ont-ils servi? Pas à embaucher du personnel dans les hôpitaux, pas à réduire le nombre d'élèves dans les classes. Ces milliards ont profité aux laboratoires pharmaceutiques, aux capitalistes de l'énergie, aux marchands d'armes et aux banquiers. La dette publique est leur dette, pas la nôtre, et bien que la bourgeoisie paye ses dettes elle-même. Alors nous devons démasquer cette propagande selon laquelle la dette serait intenable. Nous devons refuser les plans d'austérité qu'ils nous préparent. Nous devons rappeler comment la grande bourgeoisie dégouline de profit. Les 500 plus grandes fortunes du pays ont doublé leur patrimoine en 7 ans. Bernard Arnault, lui, gagne le SMIC toutes les 15 secondes. Ils sont là, les milliards, pour rembourser la dette ou pour augmenter les recettes de l'État. Mais nous devons aussi démasquer ceux qui prétendent qu'au pouvoir, ils feront payer les riches en rétablissant les impôts sur les grandes fortunes ou en instaurant une taxe sur les super bénéfices. Ce sont des baratineurs. Faire payer la grande bourgeoisie, cela signifie lui déclarer la guerre. Cela signifie se préparer à affronter les marchés financiers qui prennent à la gorge les gouvernements pas assez dociles en augmentant brutalement les taux d'intérêt. Faire payer la grande bourgeoisie, c'est se préparer à contrôler ses comptes, à lui imposer des mesures coercitives. Et ces mesures, elles ne pourront jamais être imposées en votant une loi à l'Assemblée nationale. Elles ne pourront l'être que par l'intervention directe dans les entreprises, par en bas de ceux qui font marcher la société. Elles ne pourront l'être que par une révolution sociale. Alors, le système capitaliste est plongé dans une crise profonde, mondiale et sans issue. La bourgeoisie est riche à milliards, mais ses profits sont réalisés en aggravant l'exploitation, en augmentant les prix grâce à des positions de monopole, en plaçant ses capitaux dans la finance et en pompant l'argent public sous toutes ses formes. La rivalité entre les grands groupes capitalistes des différents pays pour contrôler les marchés est plus féroce que jamais. Elle se traduit par une guerre économique permanente, que les travailleurs payent par des usines fermées, des cadences infernales et la précarité généralisée. Elle se traduit de plus en plus par la guerre tout court. La guerre ravage l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'Afrique. Et à chaque fois, les puissances impérialistes sont à la manœuvre. Et je tiens ici à dénoncer le soutien permanent des grandes puissances, dont la France, à la politique criminelle des dirigeants israéliens. Depuis un an, sous prétexte de combattre le Hamas, Netanyahou et son armée massacrent les Palestiniens. Ils ont transformé Gaza en champ de ruines et mènent une sale guerre coloniale en Cisjordanie. Maintenant, ils bombardent le Liban. Fort du soutien inconditionnel des grandes puissances, pour qui l'armée israélienne est un gendarme indispensable, les dirigeants israéliens ont multiplié les provocations guerrières contre leurs voisins. Les guerres sans fin dans lesquelles les dirigeants sionistes ont engagé les Israéliens depuis la fondation d'Israël montrent qu'aucun peuple ne peut vivre en paix en opprimant un autre peuple. Elle montre encore l'impasse de tous les nationalismes dans un monde dominé par l'impérialisme. Le sort tragique des populations du Moyen-Orient, d'Ukraine ou d'Afrique montre l'avenir que nous préparent ouvertement ceux qui dirigent le monde. Il est significatif que le seul ministère dont le budget va augmenter soit celui des armées. Il est significatif que les ventes d'armement battent chaque année un nouveau record. Alors, nous ne devons pas marcher dans l'unité nationale. Les guerres qu'ils préparent ne sont pas des guerres justes. Ce ne sont pas des guerres pour défendre la démocratie ou la liberté de tel ou tel peuple. Et au passage, on peut voir que ces grands champions de la démocratie et du droit sont les premiers à piétiner leurs beaux principes pour conserver leurs conflits coloniaux. Il est où le droit du peuple kanak à vivre dignement et librement sur son archipel ? Quand les kanaks se révoltent et dressent des barrages pour protester contre une réforme des listes électorales qui les rend minoritaires dans leur propre pays, les champions de la liberté leur envoient des militaires pour le tuer. Pour Macron et compagnie, la seule liberté qui compte, c'est celle de disposer d'une vaste zone économique et militaire dans l'Asie-Pacifique. Alors, à bas la répression coloniale, vive le droit des Kanaks, des Océaniens, de tous les exploités qui vivent en Nouvelle-Calédonie, à s'organiser librement et à profiter des richesses de leur pays. Alors ici, sans même que la guerre nous ait encore rattrapés, dans un pays riche comme la France, nous subissons la guerre sociale menée par la bourgeoisie. À cause des plans de licenciement, des fermetures d'usines, de magasins, des villes et des quartiers sont transformés en ghettos de pauvreté sur lesquels prospèrent les trafiquants et la violence. Les déserts médicaux s'étendent et les hôpitaux sont en tension permanente faute de personnel. Même les crèches et les EHPAD sont livrés à l'appétit de la finance. Les bébés et les vieillards étant transformés en machines à faire du cash, sans parler des conditions de travail du personnel. Les salaires bloqués, la flambée des prix, qui n'est pas terminée malgré la propagande quotidienne, rendent les fins de mois de plus en plus difficiles. Comment peut-on vivre avec 1 000 euros comme tant de retraités ? Comment on peut vivre avec 1 400 euros le montant du SMIC ? Pour ne pas nous laisser sacrifier, nous devons formuler nos exigences et nous organiser pour les imposer. Face aux suppressions d'emplois, il faut imposer la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Face aux prix qui flambent, il nous faut des augmentations massives de salaire et l'indexation des salaires et des pensions sur les prix. Protester contre la vie chère, contrôler les prix dans les supermarchés, les comparer avec ceux pratiqués en métropole et mettre la pression sur la grande distribution, c'est ce que font depuis 3 semaines les habitants de Martinique. Ils ont 1 000 fois raison. Ils nous donnent des perspectives. Mais pour le gouvernement, les voyous ne sont pas la famille Ayotte et les autres riches béquets qui s'enrichissent en vendant les produits 40% plus chers qu'en métropole. Non, les voyous, ce sont ceux qui protestent. Ainsi, le préfet a interdit les manifestations et décrété un couvre-feu. Il a fait arrêter des jeunes émeutiers et un organisateur du mouvement contre la vie chère. Voilà une nouvelle illustration du rôle de l'État. Protéger coûte que coûte la propriété privée et les privilèges des riches. Mais il n'est pas dit que la répression fera taire la contestation. Comme l'ont écrit nos camarades de combat ouvrier qui militent aux Antilles, le mouvement actuel contre la vie chère n'est peut-être que la partie visible d'une force populaire bien plus considérable, qui pourrait se manifester bientôt. Des milliers de gens souffrent aux Antilles, mais ils n'ont pas encore osé rejoindre le mouvement. Ils ajoutaient, pour imposer la baisse significative des prix, mais aussi imposer l'augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux, ce mécontentement qui ne s'exprime pas encore devra devenir une véritable déferlante, une explosion sociale. Alors ce qui vaut pour les Antilles vaut pour la métropole et tout, pour tous les pays. Ce qui vaut pour la vie chère vaut pour toutes les questions vitales de notre classe. Les travailleurs représentent une force collective immense. Ils sont à la base de tout. Ils font marcher la société sous tous ses aspects. Même les guerres ne peuvent pas avoir lieu avec des ouvriers, des techniciens pour produire des canons ou des avions, raffiner du pétrole ou produire du courant. Sans cheminots ou camionneurs pour transporter le matériel. Et bien, ce rôle central dans le fonctionnement de la société donne à la classe des travailleurs un poids social fabuleux pour exproprier la classe capitaliste. Il leur donne la légitimité, le droit moral pour diriger eux-mêmes la société. Ce qui manque aujourd'hui à notre classe, c'est la conscience. La conscience qu'elle représente un avenir pour toute la société. C'est ce qu'on appelle la conscience de classe. Pour retrouver cette conscience qui existait avant que les partis de gauche ne se rallient à la bourgeoisie, les travailleurs ont besoin de leur propre parti. Pas un parti destiné à fournir des ministres pour gérer l'état de la bourgeoisie, mais un parti qui se prépare à le renverser. Eh bien, camarades, notre tâche vitale, c'est de construire ce parti dans nos entreprises, dans nos quartiers, en regroupant des travailleurs conscients qui prennent l'habitude de se réunir pour discuter de leurs affaires. Cette fête est une belle occasion pour discuter de tout cela. Eh bien, profitez-en bien, et profitez bien du buffet qui, normalement, ne devrait pas tarder à ouvrir. Merci.